enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous allons regarder dans la Bible ce matin un texte de la parole de Dieu dans 1 Rois, chapitre 19, les versets 1 à 4. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, tous les versets vont apparaître à l'écran pour que vous puissiez suivre avec nous. Et nous débutons ce matin une nouvelle série de messages pour les prochaines semaines, une série de 3 ou 4 semaines, intitulée « La réponse de Dieu au burn-out, à l'épuisement et à la dépression ». Vers les 10h hier soir, mon fils, ma fille m'ont demandé, ce sont des fervents amateurs de hockey, des fous partisans du Canadien, et ils m'ont demandé, tu parles de quoi demain, papa? Alors, j'ai dit, je vais parler de dépression. Alors, il y en a un des deux qui a dit, ça sera bon pour José Théodore. Hein? Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, vous n'êtes pas un amateur de hockey, c'est pas grave, il y a d'autres choses dans la vie que ça. Alors que on entame cette série sur le burn-out, l'épuisement, la dépression, ce que vous trouvez parfois, ce que je peux vous poser la question, est-ce qu'il y en a ici qui sentent parfois que ça va trop vite? Ça va juste trop vite. Tout va tellement vite. Et j'ai souri cette semaine dans l'actualité. Il y avait un gars qui a capturé un peu notre style de vie. C'est un chroniqueur automobile, il s'appelle Philippe Lagu. Et lui, il est à la télé, il est à la radio, puis il est co-auteur d'un livre que certains connaissent, un des guides de l'auto les plus populaires, et lui connaît, c'est un expert en automobile. Mais une des choses que Philippe Lagu se spécialise, c'est la sécurité routière. Lui, il donne, mais c'est pas un prédicateur, mais c'est un communicateur de dire, il faut rouler tranquillement, il faut faire attention, la sécurité, la ceinture, etc., etc. C'est son cheval de bataille, c'est une des pierres angulaires de tout son message. Et cette semaine, il a vécu un moment très tôt, un matin, il s'est fait arrêter par un policier parce qu'il roulait à 5h30 du matin à 222 km/h. Et il a donné une réponse très profonde. Pourquoi? Je pense qu'il va passer même à tout le monde en parle, mais il a donné une réponse très profonde à savoir pourquoi je roulais si vite. Il a dit « J'étais pressé ». J'ai lu un article dans la revue McLean qui disait que une des choses qui traumatise le plus les Canadiens anglais lorsqu'ils émigrent ici, lorsqu'ils viennent partout à travers le Canada, puis ils émigrent au Québec, une des choses qui traumatise le plus, une des adaptations les plus difficiles pour le reste du Canada lorsqu'ils viennent vivre ici, c'est la vitesse à laquelle vous conduisez. Les Québécois, ils sont terrorisés, ils sont traumatisés. Il y a même une citation dans le magazine, il y a quelqu'un qui est ici depuis une dizaine d'années, puis il dit, je m'habituerai jamais, j'étais sous le traumatisme de voir les Québécois. Vous savez, si vous avez voyagé dans le Canada anglais, les gens de l'Ouest en particulier, BC, Colombie-Britannique, sont plus relax, sont plus cool, ils sont plus Californie, influence, West Coast, sont plus cool cats, sont plus relax, sont plus naturels, sont plus santé, sont plus granola, ils sont plus toutes ces choses-là que nous. Et une des choses qui traumatise, c'est de voir, là, ça me surpris dans l'article, c'est quoi vos plus grandes adaptations? Puis une de nos plus grandes adaptations, c'est les fous du Québec, les conducteurs fous du Québec. Dites à la personne à côté de vous, je pense qu'il est en train de parler de toi. Dites ça à quelqu'un près de vous. Et ça m'a fait penser à cette histoire de ce Québécois complètement fou qui roulait comme un fou, un vrai Québécois typique, puis roulait les yeux exorbités comme un fou avec plaisir, roulait à des vitesses incroyables, puis s'en allait sur une route du Québec, et puis tout à coup, il a vu quelqu'un sur le bord du chemin, et c'était justement quelqu'un de Colombie-Britannique, un jeune homme qui faisait du pouce, puis se faire embarquer par un Québécois. Il vient d'arriver ici, et puis il faisait du pouce, et là, le Québécois est arrivé à pleine vitesse, a freiné dans le gravel sur le bord, il a tout revolé, puis a ouvert la porte, il dit, viens, embarque. Et le gars de BC est rentré, ben, il a même pas eu le temps de s'asseoir, fermer la porte, boum, il était parti, c'est à poudre roue, à pleine vitesse, puis ça allait, juste la force centrifuge, juste le G-Force le gardait à côté, les mains sur le dashboard en avant, sur le tableau de bord, les jointures blanches, puis il s'en allait, puis ça se peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il le regardait, puis l'autre avait du plaisir, puis il parlait à 100 à l'heure, et puis d'un coup, il voit au loin une lumière rouge. Alors, le Canadien s'est dit, au moins, il va ralentir, il va prendre son souffle, mais le Québécois voit la lumière de loin, et puis semble accélérer, puis fou, passe sa lumière, arrête, même pas ralentir, même pas, va encore plus vite. L'autre est en état de choc, il le fait une autre fois, puis il pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Ça t'arrive souvent d'arrêter comme ça, c'est de pas arrêter sur les lumières rouges, puis ils disent, ouais, moi, mon frère, ils ont aimé ça au bout, on tripe là-dessus, juste traverser les lumières rouges, ils ont des vrais Québécois! L'autre est en train de capoter, il est en train de mourir là, mort, le sang est vide de la face, en train de regarder tout ça, d'un coup, il voit une lumière verte. Je sais pas trop ce qui va arriver. Puis là, lui, s'en va à pleine vitesse. Puis après, à peu près 100 mètres avant la lumière verte, il met les freins, il appuie ses freins. L'auto tourne à toutes les bords, pareil, juste à la dernière seconde, devant la lumière verte. Puis, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Ben, je veux faire attention pour pas faire frapper par mon frère. Ça va, je vais attendre, ça se rende jusqu'en arrière. Ouh. Ah, OK. Combien croient que ça va trop vite? Parfois, ça va juste trop vite. N'importe quoi pour gagner quelques secondes. Juste gagner couple de secondes, n'importe quoi pour gagner du temps. Quelqu'un m'a envoyé cette semaine, sachant pas, je ne pense pas que la personne savait sur quoi je m'en allais, qu'est-ce que j'allais partager, mais j'étudiais tout ça, puis quelqu'un qui m'a envoyé juste une photo, ça s'appelait « L'essence de la survie ». L'attitude, il y a beaucoup de gens qui sentent qu'il faut juste qu'ils se battent pour survivre. Il y avait une photo, puis l'essence de la survie sur Internet, puis tu vois un lion qui court, puis c'est une espèce de petit film, un clip, un lion qui court après une gazelle, et puis ça disait ceci. La gazelle court du matin au soir, à toute vitesse, de toutes ses forces, pour ne pas être dévorée. Et elle recommence le lendemain. Le lion court du matin au soir, de toutes ses forces, pour ne pas crever de faim. Puis il recommence le lendemain. Puis il y a plein de gens qui se sentent comme ça. Il faut juste que je ride tout le temps, du matin au soir, pour juste pour me faire dévorer, juste pour pas crever de faim. On est prêt à n'importe quoi, juste pour gagner quelques secondes. Et cette semaine, il y a eu l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui a fait des vagues, alors qu'il a fait une déclaration, il a mis le doigt dans une plaie de beaucoup lorsqu'il a dit « Les Québécois ne travaillent pas assez ». Travaillait pas assez, puis je respecte beaucoup l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais toute la semaine, les experts par la suite, puis je comprends une mesure ce qu'il voulait dire, mais toute la semaine, après la déclaration, les experts ont empilé sur tous les médias toutes sortes de faits qui sont indéniables, des faits qui sont abondamment documentés. Il y a beaucoup de choses qui sont indéniables qu'il faut que vous sachiez, c'est que les Québécois travaillent plus d'heures qu'il y a 30 ans, à peu près 2 à 3 heures de plus. Tout le monde, toutes les statistiques montrent que la majorité des Québécois, toujours des exceptions, mais la majorité des Québécois travaillent plus d'heures qu'il y a 30 ans. Une autre chose, c'est que la majorité des Québécois dorment moins qu'il y a 30 ans, ce qui ne leur donne pas la permission de dormir pendant que le pasteur parle. Troisième fait important, les Québécois travaillent plus âgés, plus vieux, prennent leur retraite beaucoup plus tard qu'il y a 30 ans, travaillent plus fort, plus longtemps. Une autre fin indéniable et abondamment documentée, c'est que la majorité des Québécois, que les Québécois en moyenne ont plus de difficultés, c'est plus difficile, d'entrer sur le marché du travail, de se faire une place significative sur le marché du travail, tous les jeunes qui sont ici ce matin, jeunes adultes, beaucoup plus difficile qu'il y a 30 ans. Beaucoup moins de sécurité. Les Québécois moyens expérimentent et sont privilégiés avec beaucoup moins de sécurité d'emploi qu'il y a 30 ans. Et la majorité des Québécois vivent plus de stress néfaste qu'il y a 30 ans. Et c'est partout dans l'actualité. Un des magazines les plus lus du Québec cette semaine, la semaine où je préparais pour cette série qui commence aujourd'hui sur le burn-out, sur l'épuisement, sur la dépression, avait une page couverture qui disait 800 000, dossier spécial, 800 000 Québécois au bord du burn-out. 800 000, c'est en 2004. Il est possible que ça soit tout près du million maintenant. Le burn-out ou l'épuisement professionnel, le mal du 21e siècle. 3 millions 400 000 Canadiens, dont 800 000 Québécois, en souffrent en ce moment. Les travailleurs québécois perdent plus de 3 millions de journées de travail à cause de problèmes de santé psychologique. Au Québec, ces problèmes représentent, dans beaucoup d'entreprises, 20 % de la masse salariale d'une organisation. 48 % des absences au travail ont comme source une dimension de santé mentale. Presque la moitié des gens qui manquent de travail, c'est quelque chose qui est psychologique. De 90 à 2004, c'est assez hallucinant de voir l'augmentation simplement en 14 ans ou en 15 ans. De 90 à 2004, les indemnités versées par la CSST pour ce problème de santé ont décuplé, passant de 1,5 million à plus de 15 millions par année. Les périodes de convalescence sont non seulement plus nombreuses, mais elles sont aussi plus longues. L'expression burn-out, en français on dit épuisement professionnel, mais l'expression burn-out qui est beaucoup utilisée, le terme a été inventé par le psychologue new-yorkais Herbert G. Freudenberger, qui lui a été victime lui-même, c'est un médecin, un psychologue, mais a été victime lui-même du burn-out et par la suite a consacré sa vie à l'étude de cette condition, que lui a défini une définition simple, il y en a plein de définitions sur Internet, mais une simple, qu'il définit comme celle de celui qui a inventé le mot, un état de détérioration et de vide des ressources physiques et mentales d'une personne. Il y a, lorsqu'on parle de mots qui sont inventés pour essayer de décrire une condition, dans les années 70, ce mot pour décrire des gens qui sont au bout, des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui ne peuvent plus fonctionner psychologiquement, physiquement, mentalement, ils ont ce brisement, ce craquement, ce déchirement dans leur vie, ils sont en burn-out, le mot a été inventé. Il y a un autre mot qui a été inventé, il nous vient du Japon, il commence à avoir des traductions de ce mot-là à différents endroits du monde, le mot « karoshi », qui signifie littéralement « mort par surcharge de travail ». Dans les années 70, il y a un phénomène au Japon où ils ont une éthique de travail hallucinante et où la compagnie est suprême et où les gens, il y a une pression immense qui est mise sur eux. Des gens qui littéralement s'effondraient sur leur bureau, des gens qui mouraient au travail, mourir à l'ouvrage. Et là, il n'y avait pas de mot pour ça, mais ça c'est, ils ont nommé le mot karoshi. Ils ont trouvé le mot karoshi qui veut dire mort par surcharge de travail. C'est maintenant reconnu comme une maladie professionnelle et on estime à plus de 30 000 personnes les victimes au Japon depuis 80, en 20 ans seulement, qui sont morts de cette façon-là. Ça touche un Québécois sur 7, ce qui veut dire que dans une assemblée de plus de 3 000 comme ce matin, il va y avoir ici plus de 500 personnes. Statistiquement, cela représente plus de 500 personnes à l'Église Nouvelle-Vie ce matin et des dizaines de milliers d'autres qui vont écouter ce message par le truchement de la radio ou par Internet. Nous avons des milliers de personnes qui suivent ces messages par Internet, qui nous écrivent et qui visitent nos sites et entendent ces messages. Et c'est des centaines et milliers de personnes ce matin qui sont ici et qui vont entendre ce message et qui en souffrent, qui vivent cela en ce moment, ou quelqu'un près de vous qui le vit. Et si la province de Québec sait bien, est au courant, si le Québec est conscient de ce phénomène, est conscient de cette douleur qui est là, de cette plaie qui se répand dans le cœur et l'esprit et les pensées de milliers de personnes, il y a une chose, et constate les dégâts, et constate l'ampleur du problème, et constate comment c'est épidémique, et comment c'est grave, et comment c'est foudroyant, et comment c'est profond lorsqu'on pense à une personne sur sept. Il y a une chose que la province de Québec ne sait pas. La province de Québec, la majorité des Québécois n'ont aucune idée n'ont aucune idée, ils connaissent le phénomène, mais ne connaissent pas le fait que Dieu, que la parole de Dieu a énormément à dire sur ce sujet. Que la Bible n'est pas loin de ce sujet, que la Bible ne le nie pas, n'est pas les enseignements de la Bible et de Dieu, les évangiles ne sont pas indifférents, ne sont pas éloignés, ne sont pas dépassés par les situations modernes. C'est dans les paroles d'une simplicité, d'une puissance tellement grande, Jésus a fait cette invitation. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». Vous tous qui êtes troublés, il adresse chaque personne qui est aux prises avec ces mots. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui êtes épuisés, je le lis à partir de la version Parole vivante, qui êtes épuisés ou découragés, et je vous apprendrai à trouver le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, recevez mes instructions. C'est comme cela que vous trouverez du repos pour vos âmes. Cette semaine, on a envoyé un email pour annoncer la nouvelle série de messages, puis j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a dit, j'ai invité, je pense que c'était un ami ou un membre de sa famille à l'église, puis parce que cette personne-là vit un burn-out, vit une dépression, et la première réaction de la personne était, comment ça? Va parler de ça à l'église? Comment ça qu'une église va parler de ce sujet-là? J'aimerais vous dire que le Seigneur connaît chaque fibre et aide de l'être humain, chaque expérience de l'être humain, chaque chose que l'être humain va traverser, et que Dieu dit, lance une invitation à chacun d'entre vous ce matin. Il dit, viens à moi, apprends de moi, approche-toi de moi, et moi je veux t'apprendre, je peux t'enseigner, je peux t'apprendre non seulement comment trouver un chemin de guérison pour toi-même, mais comment être rebâti, être restauré, et devenir quelqu'un. Je veux t'apprendre, tu vas recevoir mes instructions et je vais t'apprendre à trouver un repos. Et que ceux qui l'ont expérimenté puissent dire amen si vous l'avez vécu dans vos propres vies. Cette dimension, de même une expression qui vient des milieux ruraux, de milieux fermiers, lorsque Jésus dit « prenez mon joug sur vous », l'expression était très, très éloignée de la réalité de la majorité d'entre nous, mais extrêmement vivide dans le contexte du Nouveau Testament, alors que s'il y avait un animal qui avait une charge qui l'écrasait, qui n'était pas capable de porter, qui était en train de ployer qui était en train d'écraser sous le poids de sa charge, le fermier savait si c'était quoi un joug. C'était un appareil de bois que tu prenais, que tu mettais, qui permettait à l'animal d'être sous le joug et d'avoir attaché avec lui un ou des animaux sous le même joug, qui maintenant, au lieu d'être seulement toi qui porte le joug, on va le porter tous ensemble. Ce que tu n'étais pas capable de porter, maintenant va être porté par les personnes qui sont sous le joug. Et cette invitation-là, c'est une offre personnelle de Jésus lui-même d'entrer en partenariat avec chaque être humain et de dire par la foi en moi, par une marche avec moi, une découverte de mes principes et de mes préceptes, moi, je peux vivre dans ta vie, je peux vivre dans ton cœur, je peux te prendre dans mes bras et maintenant le fardeau qui t'écrasait, je vais le porter avec toi et je vais t'apprendre à te reposer sur moi. Je vais t'apprendre à délaisser, je vais t'apprendre à porter, à me donner ces choses. Et il y a une vie de foi chrétienne qui contribue d'une manière extraordinaire à l'apaisement, au repos, à la joie, à l'épanouissement et à un équilibre dans chaque aspect de nos vies. Combien savent simplement qu'en 2006, Jésus encore guérit ceux qui ont le cœur brisé? Est-ce que vous le croyez? Alors, on va voir un témoignage ce matin, pendant quelques instants, juste en ouverture, en intro du message. Et ce message de ce matin est une intro pour les prochaines semaines. On va entendre un témoignage de Richard Paré. Richard, c'est un musicien vraiment exceptionnel, un guitariste exceptionnel qui, pendant des années, a joué avec Laurent Jalbert et plusieurs autres, des noms très, très connus au Québec. Faisait beaucoup d'argent, était sur le stage, était vu de tous et a participé à toutes sortes de spectacles majeurs et faisait beaucoup d'argent là-dedans. Puis en plus de ça, était à coquiner avec des gens qui vendaient de la coke et tout ça. Puis lui avait ce sideline-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et pendant toute cette période-là, extérieurement, tout semblait aller. Mais Richard était en train de mourir intérieurement. Puis un soir, vous allez entendre un témoignage, il a mis une montagne de poudre sur la table, il s'est mis la face dedans, il a dit, je veux mourir, je souffre tellement à l'intérieur, je suis tellement déchiré, je suis tellement malheureux, je veux arrêter de vivre, je veux arrêter au moins la souffrance qu'il y a en moi. Et voulait mourir, voulait arrêter son souffle, voulait arrêter de vivre, et à travers cette expérience-là, a crié vers Dieu. Et dans les mois et années qui ont suivi, découvert la foi en Dieu, découvert la foi chrétienne, découvert ce que Dieu pouvait faire dans un être humain. Et non seulement est-il sobre maintenant depuis des années, est-il quelqu'un ici, il joue de la musique ici à l'église régulièrement, participe à des événements de concerts spéciaux avec nous. Et les musiciens, tout le monde l'appelle Smiley. C'est un gars qui est extrêmement paisible, extrêmement fort maintenant, qui a une paix en lui, qui rayonne quelque chose. Et alors que vous allez entendre ce témoignage, une vie ne peut pas se résumer en 4 minutes, mais c'est quelques minutes d'un témoignage tout simple. Je veux simplement vous demander, vous suggérer, vous proposer, pendant quelques instants, simplement d'ouvrir vos cœurs. On a chanté ce matin, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Que vous puissiez ouvrir vos cœurs ce matin et dire, « Seigneur, j'entends, à travers le témoignage que je vois là, j'entends une invitation. La voix de Dieu qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, qui êtes épuisés, qui ont craqué, qui ont déchiré, qui vivent une douleur intérieure, et je vous donnerai du repos. Je vais vous enseigner, je vais vous apprendre. Vous allez recevoir mes instructions et je vais vous apprendre comment trouver les sentiers de la paix. » Ouvrez vos cœurs alors que vous entendez ce témoignage à la réponse de Dieu, à l'épuisement, la dépression, le burn-out.
Si on peut dire la vie, il y a une expression qui était utilisée, sex, drug and rock and roll. C'était ça, Richard Paré. Il vivait dans les clubs, il consommait de la drogue, il sortait avec des filles, jouait avec Dan Bigra, jouait avec Laurent Jalbert, avec Jerry Boulet. J'ai travaillé sur le show de Michael Jackson. L'argent rentrait avec la musique, avec les privilèges aussi, on rentrait partout. Puis avec la drogue, j'allais me chercher à peu près 60 000 par année pour une journée de travail par mois. C'était assez payant. J'avais tout, j'avais l'argent, la gloire, le succès, mais j'étais vide de l'intérieur. Fait qu'une soirée, j'ai dit, c'est fini. Fait que... J'avais 200 grammes de coke. J'ai pris ça, j'ai mis ça sur le piano. Puis j'ai dit, asseoir, je vais mourir. Alors, ce soir-là, j'ai essayé de mourir, j'ai fait une tentative de suicide, puis à un moment donné, j'en pouvais plus. Après, aux petites heures du matin, je voyais bien que ça marchait pas. Fait que j'ai été dans mon lit, puis là, j'ai fait quelque chose, j'ai crié à Dieu. Alors, j'ai dit à Dieu, si tu existes, arrête mon cœur, parce que je veux pas vivre, je veux plus vivre. Puis là, j'essayais de l'aider, fait que j'essayais de retenir mon souffle. Mais ça fonctionne pas. C'est Dieu qui donne le souffle de vie, puis on peut pas l'arrêter. Fait que la deuxième chose que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si t'existes, je te donne ma vie. Puis ça, c'était le 11 septembre 1987. Je te donne ma vie, fais ce que tu veux avec. Puis c'était vraiment, il y avait aucune condition. C'était, si Dieu est là, je lui donne ma vie, il peut faire ce qu'il veut avec. Puis là, je suis tombé endormi. Chose surprenante après toute la drogue que j'avais consommée. Et c'est là que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais plus la même personne. Alors, je me suis réveillé, il y avait une paix dans mon cœur. Il y avait une joie. Il y avait un sentiment de bien-être. Et là, je me rendais compte qu'il y avait un amour. Je me sentais aimé. Puis, j'en parle, hein, 19 ans après, puis c'est comme pff, l'amour de Dieu. Puis là, j'avais été voir mon partner dans l'entreprise, puis j'avais dit, Alain, je peux plus faire ça. Dieu existe, Dieu est vivant, je suis plus la même personne. Fait que je te donne la balance, les livres, l'argent. On regarde ça ensemble, il dit, il y a un 5 000 $, c'est pas à moi. Il dit, c'est à toi. J'ai dit, j'en veux pas. Il y avait en moi cette pensée-là, il y aurait eu 1 000 000 sur la table. J'aurais dit, je peux pas toucher à ça. Tout ce que j'entendais des cassettes, j'avais des chrétiens qui me donnaient des cassettes, je suivais des cours de Bible par correspondance et je me suis fait baptiser en 1988. Puis en 1992, j'ai eu un appel. Le Seigneur avait mis ce feu-là, puis le Seigneur, à un moment donné, il me dit, Richard, tu vends tout ce que tu as, puis je veux que tu viennes me servir dans le centre-ville avec les jeunes de la rue. Quand Dieu met un désir dans ton cœur, c'est comme si c'est la seule chose que tu as le goût de faire. Et là, Dieu met un désir, puis en même temps, il ouvre les portes. J'avais vraiment un privilège de servir Dieu. Alors, parce qu'Opération Mobilisation a commencé en 1986 à Montréal. La première équipe s'était composée de 5 femmes qui sont venues de tous les pays du monde. Une d'entre elles, c'est une dame qui s'appelle Christine Mayer, qui venait de l'Australie. Donc, à 20 ans, elle a quitté son pays, elle a grandi dans une famille chrétienne. Puis elle est venue à Montréal comme missionnaire pour travailler puis faire partie de la première équipe de OM. Puis, on s'est mariés en 1995.
Je travaille avec Richard pour plusieurs années. Je n'ai pas eu aucun intérêt envers lui. Et je pensais que je vais marier une Australienne parce que je viens de l'Australie. J'ai vu qu'il a voulu grandir dans le Seigneur et vivre pour lui, donc ça m'a touché beaucoup. Oui, c'était pas juste 50%, mais vraiment tout, de donner tout au Seigneur.
Dieu vient nous chercher. Il nous connaît. Il connaît nos combats, il connaît nos luttes, il connaît nos chutes. Sa grâce se renouvelle à chaque matin, puis on vit par la grâce de Dieu. J'aime jouer de la musique, mais c'est un véhicule. Mais ma passion première, c'est Jésus-Christ. Qui j'étais, où ma vie se dirigeait, où je ne serais pas vivant aujourd'hui si ce ne serait pas de lui. C'est pour ça que je me dis, les gens doivent connaître Jésus. Il est la source de la vie, il est... C'est comme ça. Alors quand on chante, quand je joue de la guitare, pour moi, c'est comme, waouh, on parle de Jésus, hein? On chante ses louanges, on chante son œuvre. Chaque dimanche à l'église, on voit Dieu toucher des cœurs et c'est ce qui est merveilleux. Il est vivant, il est présent.
Tous les couples mariés ici réalisaient la différence entre l'humour d'un homme et l'humour d'une femme? Oh, moi j'étais avec Richard, mais t'as pas du tout. Ah! Combien savent que c'est Richard qui a gagné? Il l'a marié, il l'a eu, il l'a gagné. Lorsqu'on parle de burn-out, lorsqu'on parle de dépression, lorsqu'on parle d'épuisement, il y a toutes sortes de mythes là-dessus. Quelques mythes concernant le burn-out, la dépression, qui sont très importants de clarifier. Des choses qui sont de moins en moins, je pense, j'espère, qui sont de moins en moins dans la pensée collective parce que les gens apprennent. Il y a une éducation qui se fait, mais qui ont été très présents pendant longtemps dans la pensée de notre monde séculier, mais aussi très présents, ces mythes, dans certains segments de l'Église chrétienne. que le burn-out ou l'épuisement ou la dépression, ça n'arrive qu'aux femmes, que c'est une affaire d'émotion et de femmes, c'est absolument faux. C'est en nombre égal et il y a des milliers, centaines de milliers d'hommes qui vivent ces difficultés, qui à qui cette tragédie arrive. Que ça n'arrive qu'aux gens de 35 à 45 ans, on a une image que ça, c'est le genre de personnes à qui ça arrive, alors qu'il y a un nombre grandissant de jeunes qui vivent des dépressions, qui vivent des crises d'angoisse face à la vie dans laquelle ils ont grandi, les situations familiales dans lesquelles ils vivent. Parfois, c'est exacerbé, c'est multiplié par la toxicomanie ou des problèmes que les jeunes font face d'abus, d'incertitude, de peur face à l'avenir. Et c'est aussi de plus en plus présent, et ça, c'est une des tendances les plus inquiétantes, c'est que c'est de plus en plus présent chez les personnes plus âgées. Chez le troisième et le quatrième âge, chez des gens, c'est de plus en plus présent le sentiment de solitude, d'isolement, de rejet, le sentiment de peur face à l'avenir, de dépression. Un autre mythe, c'est que c'est un problème qui est seulement dans la tête. Il y a une pensée qui a été présente, qui est extrêmement destructive et qui est entièrement fausse. La pensée que c'est une affaire dans la tête à quelqu'un qui est en burn-out, lève-toi le matin, donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis tu vas être correct. Non, laissez-moi vous dire, pour avoir été avec des gens de capitaines d'industrie à aller à Madame Tout-le-Monde qui ont souffert de burn-out, que c'est tout aussi que les personnes, la douleur, l'incapacité, l'épuisement physique, l'épuisement mental, psychologique, l'insomnie, tout ce qui vient avec. Lorsque tu es foudroyé, lorsque tu es frappé par un burn-out, c'est tout aussi réel que quelqu'un qui est frappé d'une crise de cœur ou quelqu'un qui est frappé avec un problème cardiaque ou une autre maladie plus connue. Un autre mythe, que ça n'arrive qu'aux faibles. C'est des personnes qui sont un peu instables émotivement de toute façon, fait que c'est pour ça que ça leur est arrivé, c'est entièrement faux. Il y avait une émission la semaine dernière à Radio-Canada qui s'intitulait « Lorsque les cadres ne cadrent plus ». Et c'était tous des cadres, des gens, et puis il y en avait là-dedans avec des salaires d'un demi-million par année, des gens habitués à diriger, des gens qui ont une excellente éducation, qui ont des fortes capacités, capables de prendre la pression. C'est même un phénomène de plus en plus répandu que c'est des gens qui accomplissent beaucoup, qui à un moment donné en ont tellement pris, n'ont aucune mesure et équilibre dans ce qu'ils sont capables de prendre comme stress et pression et qui craquent. Alors, un mythe, c'est que ça n'arrive qu'aux faibles. D'autres pensent que, et ça a été plus, c'est plus pour l'intérieur de l'Église, et ça a été présent dans un certain segment du monde chrétien, qu'un burn-out ou une dépression, ça ne peut pas arriver à un bon chrétien. Et ça, ça a amené quelque chose qui est odieux et quelque chose qui est destructeur, quelque chose qui a été particulièrement sournois. Cette pensée-là a fait en sorte que des croyants, des chrétiens qui vivaient un burn-out ou une dépression, en plus de toute la douleur, en plus du combat réel dans lequel ils étaient engagés, et ce qui s'abattait sur eux avec toutes les difficultés et l'incompréhension que ça peut amener, vivaient souvent une espèce de honte, une espèce de sentiment de mépris par les gens, un sentiment de culpabilité. Est-ce que je suis pas un bon chrétien? Est-ce qu'il manque quelque chose à ma foi? Et ce matin, on va commencer ce matin, c'est simplement l'intro, mais dans les prochaines semaines, nous allons regarder à un homme qui est un modèle de foi, un modèle de héros de la foi dans l'Ancien Testament, un modèle d'un homme, lorsqu'on parle de Élie dans l'Ancien Testament, c'est un modèle que, pour chacun d'entre nous, un modèle, si chacun d'entre nous aspirons pendant toute notre vie à avoir certaines qualités qui étaient toutes présentes dans cet homme. Élie, c'était un homme de grand courage. On le voit dans les chapitres précédents, 1er roi 19, se lever au milieu de la nation comme une espèce de Nelson Mandela, de notre époque moderne, ou un Roméo, Mandela face à l'apartheid, ou un Roméo Dallaire au Rwanda face au génocide du Rwanda. On a vu de ces hommes qui s'élèvent dans une nation, et Élie était comme ça, un homme qui s'élève devant un roi qui s'appelait Akab, qui était cruel, au péril de sa vie, un homme de conviction, un homme de grande compassion, qui a les bras ouverts envers des gens qui se détruisent et qui le méprisent et qui l'attaquent et qui sont contre lui, et pourtant ouvre les bras et va dire: « Approchez-vous de moi, les gens qui sont en train de se détruire eux-mêmes, afin que je puisse rebâtir l'autel de Dieu dans votre vie. » C'est un homme de courage, de conviction, de compassion. C'est un homme de conquête extraordinaire. Et c'est ça qui est très saisissant. C'est que dans le chapitre précédent, c'est un moment, c'est son plus haut moment de gloire. En termes modernes, c'est sa promotion, c'est sa graduation, c'est son accomplissement le plus grand, alors qu'il va appeler à Dieu dans un moment de croiser des chemins, un moment ultime, et le ciel va s'ouvrir, Dieu va donner une réponse et lui donner la plus grande victoire de sa vie. Et alors qu'il s'empare de cette victoire-là, il y a toute une nation qui est galvanisée par l'accomplissement que Dieu a fait, le miracle que Dieu a accordé, et il y a toute une victoire contre des ennemis qui les pressaient, qui est faite par le peuple de Dieu. Et là, on retrouve Élie à ce moment-là où, en apparence, extérieurement, il semble gonflé à bloc. Il semble aller à fond la caisse. Il n'y a pas de limite. Il est un héros national. Si vous auriez passé un sondage le lendemain, léger parmi le peuple, les gens auraient dit, Élie, c'est notre héros. Élie, il n'y a rien qui l'arrête. C'est une espèce de super-héros. Il n'y a rien qui l'arrête. Il est inébranlable. C'est un roc. L'as-tu vu lorsqu'il a défié la nation? L'as-tu vu lorsqu'il a appelé les gens à prendre une décision? L'as-tu vu lorsque, sans peur et sans reproche, tout le monde se serait sauvé? Mais lui est encore là. Et c'est là qu'on le retrouve, Élie, parce que parmi toutes ses qualités extraordinaires, Élie, c'est aussi un homme qui voulait mourir. Un homme qui vit un burn-out. Un homme qui vit un épuisement, un déchirement, un moment de sa vie où tout éclate. Et on le retrouve dans 1er Roi 19, dans cet état, les versets 1 à 4. La victoire vient juste d'arriver. C'est les derniers mots ce que je viens de vous décrire, c'est les derniers mots du chapitre précédent. Et le chapitre 19, les versets 1 à 4, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. À des centaines de kilomètres de là, il y a une reine ennemie qui dit, je vais te faire ce que tu as fait à mes soldats, mais je vais t'attaquer, je vais aller te faire du mal. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un arbre. Et il demanda la mort en disant, « C'est assez, Éternel, maintenant prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie est un homme de foi, Élie est un homme de Dieu. Et alors que l'extérieur paraît parfait, il est certain qu'il y a quelque chose qui est en lui. Qu'il y a une faille, une fissure qui était dans son âme, qui n'avait pas apparu extérieurement. Mais dans ce moment d'après-combat, il est vulnérable, il est fatigué, il est épuisé. Il reçoit une lettre d'une menace qui est à des centaines de kilomètres de là. C'était son style de vie d'avoir ces menaces. C'était un homme de guerre. Il aurait dû, en temps normal, dans ses moyens normaux de qui il était, dans sa marche avec Dieu, cet homme-là aurait dû y recevoir la lettre et dire, elle était à des centaines de kilomètres, voici la lettre. Dieu, hier, j'avais mes ennemis directement devant moi. Dieu m'a donné hier mon plus grand miracle, m'a défendu, m'a donné victoire, m'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Il aurait dû prendre la lettre, il aurait dû l'acheter au panier, boire son café et continuer. Mais il y a quelque chose qui est fragile en lui. Il y a quelque chose qui était vulnérable en lui. Et alors qu'il était si puissant, si haut, si accompli un moment auparavant, il y a une terreur qui s'empare de lui. Il y a un craquement, ça déchire en dedans. Et là, il devient complètement irrationnel. Il fait ce que les personnes qui sont aux prises avec le burn-out font. Il se met à se sauver d'une manière irrationnelle. Il s'isole. Il prend son serviteur, il le laisse là. Il s'en va sous un arbre. Et les mots qu'il dit, il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible au Québec, mais qui vont entendre ce message, puis qui vont à la radio et sur Internet, et qui vont dire, « Wow, c'est moi ça. » Savez-vous ce qu'il dit? Il dit, « C'est assez. Ça fait mal. Je veux plus que ça dure. » Seigneur, je voudrais mourir. Lui, c'est un croyant, alors il s'adresse à Dieu. Mais combien de fois des gens disent ça, leur psychologue disent ça, leur thérapeute ont dit ça à un pasteur, c'est assez, je voudrais juste que ça arrête. Des gens de tous les âges. J'étais pasteur de jeunesse et je rencontre des gens, des jeunes de 13, 14 ans qui ne voulaient plus vivre, qui avaient quelque chose en dedans, qui disaient, je veux pas, c'est assez, ça fait trop mal en dedans. À travers la Bible, ce cri-là est trouvé et Dieu le mit dans la Bible pour que vous sachiez qu'il le connaît, qu'il n'est pas étranger, surpris par ce cri, qu'il n'est pas dépassé ou renversé ou apeuré par ce cri ou fâché de ce cri. Ce cri est trouvé à travers toutes les Écritures. Il y a un cri dans les Écritures dont l'écho est entendu dans le cœur de centaines de milliers de Québécois. Dans Job, il est décrit ainsi. « Mes soupirs et mes de désespoir remplacent ma nourriture. Mes cris se répandent comme de l'eau. » Tout ce dont j'avais peur m'arrive. La chose dont j'avais le plus peur est en train de m'arriver. Des gens qui s'inquiètent, qui angoissent. Ils disent, ce qui m'inquiétait le matin, ce que j'avais peur est en train de m'arriver. Je ne trouve pas de calme. Je ne trouve pas aucune tranquillité. Il n'y a ni repos. Il y a seulement de l'agitation qui se lève en moi chaque jour. J'aimerais vous dire que ça commence ce matin. Dans les prochains 3 ou 4 messages, avec amour, mais avec une force et un espoir extraordinaire. C'est comme si Dieu descendait dans la salle ce matin, puis vous relevait le menton doucement. avec amour, il relevait votre tête, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, et que Dieu te disait, viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui es épuisé, toi qui a craqué à l'intérieur, et moi, je suis capable de te donner du repos. Je vais t'apprendre, je vais t'instruire, je vais t'apprendre comment retrouver une guérison, retrouver une paix, et comment trouver le chemin de la paix. C'est comme, à travers Élie, le texte, et on commence ce matin, Dieu dit, et c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous, je vais t'apprendre où regarder pour sortir de ton burn-out. Dieu dit, je vais t'apprendre quoi refuser. Dieu dit, je vais t'apprendre comment relâcher les choses. Dieu dit, je vais t'apprendre comment te reposer et te renouveler. Et Dieu dit, je vais t'apprendre comment te rétablir. J'aimerais que vous disiez à la personne à côté de vous, il y a toujours de l'espoir. Dites ça à la personne près de vous. La première chose que Dieu dit à chaque personne, il dit, je dois t'apprendre où regarder. Élie était sous l'arbre, il a demandé la mort, il a dit, c'est assez. Il a dit, je ne suis pas, prends mon âme, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Et l'Éternel dit, sors. Il était dans une grotte à ce moment-là. Sors et tiens-toi dans la montagne devant moi. Et voici, l'Éternel passa. Et devant Élie, il y eut un tourbillon fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le tourbillon. Et après le tourbillon, un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. La première chose que Dieu dit à chaque personne afin de se sortir d'un burn-out, d'un épuisement, d'une dépression, c'est d'apprendre où regarder. Les personnes qui sont en burn-out ou en dépression ont souvent dans cet endroit-là pour toutes sortes de raisons. Mais une des premières raisons, et on va bâtir pierre sur pierre la fondation par la suite, c'est que c'est les personnes qui sont en burn-out, en dépression, en épuisement, regardent à toutes sortes de choses. Ils ont regardé souvent leurs yeux, leurs pensées, toute l'emphase de leur vie est sur le passé. Ils regardent continuellement au passé, aux abus, à toutes sortes de choses, l'influence de leur jeunesse, de comment ils ont grandi, comment ils ont été traités, ce qu'on a dit d'eux, ce qu'ils ont vécu, leur tragédie. Ils ont les yeux sur le passé et souvent, ils ont les yeux sur le futur, qui leur fait peur, qui les terrorise, ou même un futur qu'ils voudraient tellement grand, tellement extraordinaire que leur présent les désole, que leur présent les décourage. Il y a des gens, dans la dépression, les gens regardent au passé, ils regardent au futur. Souvent, ils ont les yeux sur des personnes qui les ont déçus. C'est des gens qui leur ont fait du mal, sur des personnes qui les ont trahis. Souvent, ils ont les yeux sur des gens qui étaient supposés les aider, qui ne semblent plus trouver l'aide en eux. Souvent, ils ont les yeux, presque à chaque fois, leurs yeux sont sur le passé, sur le futur lointain, sur des gens qui les ont blessés, et aussi sur la situation, sur les circonstances, sur des problèmes qui deviennent de plus en plus grands, de plus en plus terrifiants, de plus en plus monstrueux, de plus en plus écrasants sur eux. Et c'est ça qui occupe leur pensée. Dieu dit, la première étape pour quelqu'un qui va se relever de cela, c'est qu'il faut que tu apprennes où regarder. Puis Élie vit une expérience saisissante. Élie est dans sa grotte et c'est tellement, tellement commun, tellement vrai, tellement réaliste cette scène-là. Parce que une des tendances les plus fortes, puis je vais l'adresser dans les prochaines semaines, mais une des tendances les plus fortes des gens en burn-out, en dépression, qui vivent des épuisements, l'angoisse, c'est ce sentiment de vouloir s'isoler. Je veux juste pas voir personne. Personne ne peut m'aider. Personne ne me comprend. Et avec amour, Dieu dit, sors de ta grotte. Puis là, il va vivre cette expérience-là assez saisissante où des choses vont passer devant lui. La première chose qui va passer devant lui, il a cette image, il a cette scène qui passe devant lui alors qu'il est debout, hors de sa grotte, où les rochers se fendent, où la montagne est secouée, où il y a toute cette explosion de puissance sur la montagne. Et ça, c'était quelque chose qui était omniprésent dans le passé de Élie. Si vous lisez l'histoire biblique, vous allez voir que dans le passé, Dieu s'était manifesté comme ça, avec puissance. La loi est donnée comme ça, la gloire est donnée comme ça, les rochers fendaient et l'eau en jaillissait. Et ça représentait, certains historiens et commentateurs bibliques parlent que Élie avait sans doute grandi en entendant pendant toute son enfance comment dans le passé, ses pères avaient vécu ces choses où la montagne avait été secouée, mais aussi comment ses pères avaient trahi, ses pères avaient failli, ses pères avaient connu des échecs terribles. C'est pourquoi la première chose que Élie va dire, Seigneur, c'est assez maintenant, je veux mourir, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a, en 2006, des milliers et milliers de personnes, consciemment ou inconsciemment, qui courent avec un poids terrible d'essayer toute leur vie de plaire à quelqu'un. D'être à la hauteur, ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être des gens de votre passé, d'essayer toute leur vie. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de rencontres que j'ai faites au fil des années, des centaines en relation d'aide, en counseling avec des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui me parlent d'événements qui sont arrivés avec leur père ou avec leur mère 10 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans auparavant, puis m'en parlent avec émotion et une douleur comme si c'était arrivé hier, c'est arrivé aujourd'hui, ça fait mal, puis je leur demande c'est arrivé quand, j'avais 16 ans, la personne a 40 quelques années, puis elle est assise devant moi. Cette dimension des gens qui courent toute leur vie avec une pression intérieure d'essayer d'être quelque chose que quelqu'un voulait qu'il soit, d'essayer de plaire à quelqu'un, d'essayer d'être à la hauteur selon le standard. Et Élie dit, non, j'en peux plus parce que moi, je suis pas meilleur. Finalement, je suis pas meilleur que mes pères. Je suis pas capable d'accomplir tout ça. Ce passé-là qui est là. J'ai lu dans une biographie dans les dernières semaines et beaucoup médité là-dessus, la biographie de Ted Turner, qui est un des hommes les plus riches des États-Unis. C'est un milliardaire. Pas un croyant du tout. Il se dit athée. Et Ted Turner est un homme qui est tellement riche, tellement millionnaire, multimillionnaire et milliardaire qu'il y a quelques années, il a fait un don d'un milliard à l'ONU. Pendant des longues années, on a dit de lui, c'est le fondateur de CNN, probablement la station de nouvelles la plus connue au monde. Et lui, il a été connu pendant plusieurs années comme étant l'homme qui possédait le plus de terrain aux États-Unis, owns the more real estate dans tout le pays aux États-Unis au complet. Et dans sa biographie, c'est fascinant parce qu'il raconte que son père est un homme d'affaires, un homme de succès, pas du tout à la mesure de Ted. 1000 fois plus petit, mais un homme de succès, mais un homme très dur, très intransigeant. Et pendant toute sa jeunesse, il a toujours eu le sentiment qu'il faisait jamais assez. Qu'il n'est pas capable de plaire à son père. Pas capable d'y plaire. Pas capable de... Puis il y avait des choses que son père était qu'il voulait pas être et tout ce que vous voulez. Il voulait plaire, il voulait être approuvé, il voulait être... Il réussissait jamais à le faire. Il raconte, quand j'ai choisi mes études, c'était pas ça qu'il voulait que je fasse. Et lorsque j'ai réussi au secondaire, je me suis allé à l'université, il était pas content de l'université que j'ai choisi. Lorsque j'ai eu mon diplôme avec honneur, c'était pas suffisant. Lorsque me suis marié, c'était pas la bonne épouse. Et lorsque j'ai fait ces choix-là, c'était pas les bonnes choses. Et tout le temps, ce poids-là. Et lorsque, en 1963, Ted Turner était déjà à son deuxième, t'es millionnaire, mais t'es rendu à son deuxième divorce, sa vie tourbillonnait de toutes les bords, son père s'est suicidé. Et 30 ans plus tard, toute sa vie a bâti tout cet empire. Et si jamais vous avez vu Ted Turner à l'interview, en anglais on dit « bombastic ». C'est un gars qui emmène large, un vrai, je pense qu'il y a une petite exemple, un vrai millionnaire américain, et parle fort, puis il a l'air au-dessus de ses affaires, puis il l'est aussi. Il est au-dessus de beaucoup d'affaires. Et il faisait... 30 ans plus tard, en 1993, il faisait un discours devant l'université Georgetown aux États-Unis. Les doctorats de Georgetown sont donnés, puis il y a tous les parents qui sont là, des milliers de personnes dans un des stades de sport qui est là. Et tous les étudiants sont là pour inviter des personnalités à venir faire des speeches. Il y avait des caméras de télévision qui étaient là. Puis il faisait un gros speech sur le succès dans sa biographie. Il faisait un speech sur le succès, puis comment est-ce que vous pouvez réussir. Et parlait fort et avec beaucoup d'enthousiasme, faisait beaucoup de blagues. Et c'était un gars qui emmène large. Alors qu'il le faisait, il était en train de parler de tout ça. Puis à un moment donné, dans le milieu de son discours, comme si tout ce qui était réprimé, poussé à l'intérieur depuis des années, puis qu'il voulait pas faire face, ça pouvait plus rester en dedans une minute. Il fallait que ça sorte à quelque part. Il s'est mis à parler quelques instants de son père et a commencé à parler. Puis quand j'étais jeune, mon père avait un magazine. Et quelques fois, on se voyait pas souvent. Mais quand je voyais mon père, je m'en allais avec lui, il allait me conduire à quelque part. Il y avait le magazine Success. C'est un magazine qui existe encore aujourd'hui. Le Success magazine. Mon père me disait, ça, c'est des hommes. Regarde, ça, c'est des hommes de succès. Puis ça, c'est des hommes qui ont réussi. Et là, au milieu du speech, alors qu'une seconde avant, tout le monde rit, puis il raconte des blagues un peu grivoises, puis comment est-ce qu'il est devenu un grand capitaine d'industrie. Ted Turner sort de ses notes le 10 magazine de ce mois-là, puis c'est lui, Ted Turner, qui était sur la page couverture. Puis là, il y a le magazine, puis il est dessus, puis là, tout à coup, au milieu, il s'arrête, puis il regarde comme au-dessus des estrades. Tout le monde est là, puis tout le monde est embarrassé, tout le monde s'arrête, puis regarde. Puis il dit, « Papa, es-tu assez, ça? N'es-tu fait assez, papa? N'es-tu fait assez? Is this enough for you? C'est-tu assez pour toi, ça? » Des gens qui étaient témoins de cet événement-là, on dit, on avait un homme qui avait gagné le monde entier, qui était son nom est connu dans le monde entier. C'est où ce qu'il disait en fait? Il disait comme Élie, toute ma vie je passe à travers, je combats avec ce poids de mon père ou une autre, ou plaire avec quelqu'un, ou être selon le standard de quelqu'un. Et ça, mes amis, ça détruit, ça abaisse, ça démolit quelqu'un intérieurement. D'avoir les yeux fixés sur le passé, Dieu dit, je veux t'apprendre à regarder, savoir où regarder si tu veux te rebâtir et si tu veux vivre en paix. Puis la deuxième étape, puis je termine avec ceci, Savez-vous ce qui s'est passé? Un flash du passé devant les yeux d'Élie, puis la Bible nous dit, on l'a lu dans le texte, mais Dieu n'était pas là-dedans. La deuxième chose qu'il a vue, il a vu les pierres qui éclatent, la montagne qui est secouée, mais Dieu n'était pas là-dedans. Par la suite, il vit un tremblement de terre et le feu qui descend. Mais Dieu n'était pas là-dedans. La Bible nous enseigne que les événements de l'Ancien Testament annonçaient les choses à venir. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous devez le faire avec un œil sur l'avenir parce qu'à travers tout l'Ancien Testament, il y a des prophéties, des messages prophétiques, des messages entiers, même il y a des vies d'individus dans l'Ancien Testament qui annonçaient ce qui était pour arriver, de la typologie, annonçaient pour être ce qui était pour se passer dans les plans et les desseins de Dieu. Et nous savons, parce que nous lisons la Bible et nous avons vécu l'histoire, que dans le futur lointain de Élie, il y avait le tremblement de terre de tous les tremblements de terre. Qu'il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, lorsque Christ est mort et ressuscité, que le Fils de Dieu a donné sa vie pour le salut de l'humanité, la Bible nous dit que la terre a tremblé et que suivant ce tremblement de terre, le feu est descendu le jour de la Pentecôte et l'Église est née. Et combien sont reconnaissants ce matin pour le tremblement de terre et le feu qui a donné la résurrection de Christ et la naissance de chaque être humain qui peut donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, manquez pas ceci. C'est aussi, comme ça peut être destructeur pour quelqu'un de continuellement avoir le passé qui vient l'écraser en ce moment. Il y a des gens qui sont en burn-out et en dépression à cause du futur lointain. De la peur de ce qui va leur arriver, de l'angoisse de ce qui va leur arriver. Puis laissez-moi le mettre pendant une seconde, parler aux gens là, vraiment de l'Église en milieu chrétien. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le pastorat, par exemple, ou serviteurs de Dieu, qui sont en burn-out aujourd'hui parce que leurs yeux sont tellement sur le réveil de l'avenir, les grandes choses qu'ils voudraient faire, puis les grandes aspirations qu'ils avaient, que les grandes ambitions qu'ils avaient, que ce qu'ils font en ce moment leur semble petit, ridicule et décourageant. Leur semble sans effet comparé au grand réveil, comparé au tremblement de terre qui s'en vient, puis au feu qui s'en vient. Il ne faut pas savoir le nombre de personnes qui servent le Seigneur, font de belles choses, mais lorsque je parle avec eux, ne voient pas ce qu'ils font, ne voient pas l'ampleur de ce qu'ils font, ne voient pas la beauté de ce qu'ils font, ne voient pas, sont pas capables de voir leur immédiat, parce que leurs yeux sont seulement sur un jour lorsque le réveil, puis les grandes choses que je vais faire, puis les grandes choses que je vais bâtir, ne prennent plus aucun plaisir, aucune joie dans ce qu'ils vivent en ce moment à cause d'un futur lointain et rêveur. Il y a un passé qui nous réduit, mais il y a un futur rêveur qui peut nous détruire aussi. Et Dieu dit à chaque personne qui souffre de burn-out, tu vas en sortir, je vais t'apprendre où regarder. Tu ne peux pas regarder parce que dans le tremblement de terre, dans la montagne qui éclate, Dieu n'était pas là-dedans. Et dans le tremblement de terre et le feu, Dieu n'était pas là-dedans. Et tout de suite après, nous dit le texte, immédiatement après, un vent souffle, un souffle, un son doux, et léger. Après le tourbillon passé, après le tremblement de terre et le feu qui représente le futur, enfin, il entendit, et je vous lis certaines des versions de la Bible, il entendit un son doux et subtil, une voix que l'on peut manquer facilement, une voix douce et sans éclat, un message doux que j'ai ignoré, mais auquel je dois maintenant porter attention. Et ce matin, la voix douce de Dieu vient pour tous ceux que le passé vous a amené à l'état actuel. Le futur peut vous épuiser aujourd'hui. Il dit, écoute ma voix aujourd'hui. Dans les choses qui semblent petites que tu pourrais manquer, les choses qui pourraient sembler que tu vas manquer, arrête-toi aujourd'hui. Regarde à ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux te guérir. Aujourd'hui, tu peux prendre joie et plaisir dans ce que tu as. Ta famille, tes enfants, les amis, l'Église, servir Dieu, un travail. Aujourd'hui, regarde à ce qui est là. Viens à moi aujourd'hui, repose-toi. Porte tes regards, non pas sur le passé qui t'écrase, mais aussi sur un futur qui te décourage du présent. Et arrête-toi et apprends aujourd'hui. Apprends aujourd'hui. Je vous dis que les personnes qui se sortent de la dépression et qui se sortent du burn-out et qui en restent sorties sont des gens qui apprennent à vivre aujourd'hui. Apprennent à aimer aujourd'hui, à accepter aujourd'hui, à se contenter d'aujourd'hui, à trouver les plaisirs dans aujourd'hui. Dites amen n'importe quand ça vous tente. À trouver satisfaction dans aujourd'hui, à trouver bonheur dans aujourd'hui, à aimer les gens qui sont à côté de toi aujourd'hui, à être gentil avec quelqu'un aujourd'hui, à servir Dieu aujourd'hui, à cultiver un cœur qui ne refuse de laisser le passé m'écraser, refuse de tellement être dans le rêve du futur que je méprise et minimise ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi cette voix douce. Elle nous apprend à mesurer la valeur de notre aujourd'hui. Pendant que les musiciens s'avancent, je finis avec ceci. Dans les psaumes, il dit, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi », psaume 39. « Ma douleur était comme un feu, mon esprit me faisait mal, la flamme me tourmentait. Mais alors, cette parole est venue sur mes lèvres. Éternel, apprends-moi comment mes jours sont brefs et comment je suis fragile. Apprends-moi la valeur de mes jours avec toi. Apprends-moi à vivre aujourd'hui. » Psaume 90, le nombre de nos années, les musiciens s'approchent, s'il vous plaît, alors que je termine. Le nombre de nos années s'élève à 70 et nous sommes vigoureux. Et si nous sommes vigoureux jusqu'à 80, mais dans l'agitation, il n'y a que peine et misère. La vie passe tellement vite et après on s'envole, après on disparaît. Apprends-nous, est-ce que ce soit votre prière ce matin? En termes de Élie, apprends-moi à entendre la voix douce, simple, le son que je pourrais manquer autrement de ta voix qui m'appelle aujourd'hui. Apprends-moi à faire en sorte que nos jours comptent, à faire compter mon aujourd'hui. Et dirigeons nos cœurs afin qu'on puisse apprendre à diriger nos cœurs vers les sentiers de la paix et de la sagesse. Une des étapes premières, c'est un premier pas, on va en faire d'autres dans les prochaines semaines et mois, pour la guérison, c'est apprendre à prier, Seigneur, apprends-moi où regarder. Au passé seulement ou à l'avenir, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je peux être guéri par toi. Aujourd'hui, je peux aimer quelqu'un. Aujourd'hui, je peux être reconnaissant envers toi. Aujourd'hui, je regarde à ce qui est là et je veux vivre cette journée. Un des privilèges et des grandes responsabilités de quelqu'un comme moi qui est un pasteur, c'est qu'on accompagne les gens dans leur vie, mais souvent on les accompagne aussi dans la mort. Moi, j'ai eu le privilège au fil des années, et la grande responsabilité, puis c'est quelque chose que tu n'oublies jamais, d'être proche des gens alors qu'ils meurent. Toutes les façades sont tombées, toutes les masques sont tombées, puis là maintenant, ils se préparent à glisser dans l'éternité, quel que soit leur âge. Et de voir tous les masques enlevés, de voir comment les gens quittent la terre, de ce qui se passe. Et moi, j'ai été on a deathbed, sur le lit, à côté des gens qui étaient pour mourir le lendemain, ou le surlendemain, ou quelques minutes, et parfois même présent dans la pièce alors qu'une personne est en train de finir ses derniers souffles puis que la machine arrête. Laissez-moi vous dire ceci avec douceur. J'ai jamais... Les choses qui nous semblent tellement importantes à chaque jour de nos vies ont bien peu d'importance lorsque tu glisses dans l'éternité. On vit notre vie sur la performance, puis toutes nos vies sont pour la prochaine récompense. Mes médailles, lorsqu'on est petit gars, garçon, ma médaille de hockey, ma médaille de sport, ma médaille, mon diplôme, mes études, ma promotion, mon travail, mon augmentation, la reconnaissance des gens, l'approbation des gens. Mais lorsque j'ai rencontré des gens sur leur lit de mort, lorsque j'ai été avec eux, je leur ai tenu la main dans leur dernier souffle sur terre. Il n'y a jamais personne qui dit, hey, minute là, c'est mes derniers moments sur terre, je veux mes diplômes, amenez-moi mes diplômes. Jamais personne qui dit, amène-moi ma carte de crédit avec ma gold, avec ma marge que j'ai réussi à acquérir au fil des années. Il n'y a pas personne qui dit, amène-moi ma montre en or que j'ai eue ma compagnie pendant 25 ans. Je veux ma montre en or. Il n'y a pas personne qui dit, j'ai jamais rencontré une seule personne qui dit une chose que je regrette amèrement. J'aurais donc voulu passer une journée de plus au bureau. Non. Pas pour ça qu'ils disent, avant de partir, amenez-moi mon siège en cuir dans mon auto. Oh, mon siège en cuir, ma climatisation en 4 volumes, mon système de son à 19 amplis. Non, il n'y a jamais personne. Tout ce que les gens veulent, ils veulent des gens qui les aiment autour d'eux. C'est quelqu'un qui m'aime qui peut venir à côté de moi. C'est quelqu'un qui... Les choses que souvent, quand on les vit sur la terre, on prend pour acquis. On néglige. Pris par le passé, combattant contre le passé, puis poursuivant le futur extraordinaire. Oubliant les personnes les plus proches autour de nous. Oubliant les personnes, le privilège qu'on a d'être avec des gens, nos fils, nos filles, nos familles, nos pères, nos mères. Les gens, l'Église, des amis. Qu'aujourd'hui, je peux aimer quelqu'un. Aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu pour ce que j'ai. Aujourd'hui, je peux m'arrêter. Seigneur, apprends-moi, c'est ma première étape. Pour me sortir et pour apprendre à vivre dans la paix. Apprends-moi à ne pas m'épuiser avec le passé et avec l'avenir si loin. Puis apprends-moi à prendre, à regarder à aujourd'hui et à tout faire pour que mes journées comptent aujourd'hui. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. C'est un chant que nous chantons ici à l'Église avec lequel nous allons terminer dans un instant. Je vous remercie beaucoup d'entre vous cette semaine d'envoyer des cartes, toutes sortes de lettres, puis tout ça, parce qu'il a été mentionné que c'est pas arrivé souvent, les 13 ans, c'était la première fois que ça arrivait. Il y a quelques semaines, j'ai eu un malaise, et puis, par mesure de précaution, ils m'ont amené à l'hôpital, c'est quelque chose que j'ai détesté profondément, mais c'était ici au bureau, et puis ils m'ont amené, je suis parti en ambulance à l'hôpital, et puis là, il y a des tests à passer, puis je me sens bien, mais il y a des tests qui vont être passés, puis tout ça. Mais lorsque j'ai sorti de l'hôpital ce soir-là et que je suis arrivé à la maison, Chantal est ici, mon épouse, c'est certain. Lorsque je suis arrivé sur la porte de la maison, avant d'entrer, je disais à mon épouse, tout ce qui est précieux pour moi est derrière ces portes. Ce qui compte, là, est ici, dans cette maison. Et dans les semaines, dans les jours qui suivent, il y a des gens qui ont vécu des affaires sans bien plus graves que moi. Je n'ai pas passé proche de la mort ou rien de ça. J'ai un malaise un moment. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose en moi, lorsque ça s'arrête comme ça une seconde, tu reprends quelque chose en moi qui dit, comme j'apprécie ce qui est autour de moi, vous, la chance d'être vivant au Québec, puis de faire des choses, d'aimer quelqu'un, d'aider quelqu'un. Moi, je prie pour moi-même. Seigneur, apprends-moi. Parce qu'il est possible pour quelqu'un qui a une nature visionnaire de tellement carburer à ce qui doit arriver, puis qu'est-ce qui peut se passer, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on bâtisse. Puis de combattre aussi chacun d'entre nous avec les pères et les backgrounds que nous avons eus, avec les poids que nous portons seuls à essayer d'être mieux, puis d'être différent, puis d'être autre chose qu'eux, puis de mesurer à... On peut s'arrêter puis dire aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi où regarder. Puis lorsque je regarde à Dieu, puis je regarde à aujourd'hui, puis je regarde à ma famille, puis je regarde à vous, je dis, quelle journée extraordinaire nous avons pour suivre Dieu. Quel moment extraordinaire que j'ai aujourd'hui pour servir le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette pensée dans son cœur ce matin? Vous pouvez être reconnaissant envers Dieu vous-même. Avoir un moment de prière ensemble ce matin en terminant. Je vais demander à tout le monde de pencher la tête et fermer les yeux un instant. Je vais m'adresser à chaque personne qui dirait ce matin, ce message est pour moi. Seigneur, apprends-moi à vous regarder. Et à mesure que ces paroles s'adressent à vous, j'aimerais vous demander si vous sentez ce besoin de répondre à ce message, je vais vous demander de vous lever à vos places. Juste un seul vide bois à votre place pour dire, me voici, Seigneur. Les gens qui sont ici qui diraient ce matin, ce message est pour moi. J'ai besoin de cette consolation de Dieu. J'ai besoin de cet apaisement de Dieu. J'ai besoin d'apprendre que Dieu m'apprenne à trouver les sentiers de la paix. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes. Me voici, Seigneur, parce qu'on va prier pour vous. Les personnes qui sont ici qui diraient, parce que l'autre, ce passé-là, mon passé familial, mon passé religieux, mon passé émotif, mon passé conjugal, est un poids, je le sais, je suis continuellement en train de souffrir aujourd'hui à cause du passé. Je suis continuellement en train de me battre aujourd'hui à cause du passé. J'aimerais vous demander de vous lever et de dire, me voici, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à regarder à aujourd'hui. Les gens qui sont ici qui diraient, je sais ce que c'est que d'essayer d'avoir une approbation de quelqu'un. Je sais ce que c'est que de me battre en disant, faut que je sois plus que, faut que je sois meilleur que, faut que je sois autre chose que. Mais ce matin, je veux me lever pour dire, Seigneur, apprends-moi à réaliser que toi, tu m'aimes inconditionnellement, qu'il n'y a rien que je pourrais jamais faire qui va faire que tu vas m'aimer plus. Les gens qui sont ici, qui ont senti dans leur esprit que une portion de ce message était pour eux, les gens qui vont dire, j'avais jamais pensé à ça avant, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a de la misère, apprécier ce que j'ai en ce moment, ce que je fais en ce moment, parce que j'ai toujours les yeux sur l'avenir, toujours ce que c'est. Le futur, puis il faudrait que je fasse ça, puis j'ai de grands projets, puis j'ai de grandes choses. Puis ce que je fais en ce moment semble bien trop petit comparé à ce que je voudrais faire un jour dans ma carrière, dans mon ministère, dans ma famille, dans mes études, dans tout ce que vous êtes ou faites. Mais que ce matin, vous réalisez que ce regard, c'est bien d'avoir des plans et des visions pour l'avenir, mais ce regard sur l'avenir souvent nous vole la beauté et le bonheur que nous avons dans l'immédiat avec ce que nous avons et la satisfaction, le sentiment d'accomplissement et le sentiment de gratitude. Et nous souvent nous préoccupons tellement par le passé et le présent qu'on néglige les gens les plus proches de nous, autour de nous. Alors ce matin, Seigneur, je veux me lever pour dire, apprends-moi à regarder. Apprends-moi à regarder à toi. Tu n'es pas, et voici, tu n'es pas. Tu n'es pas dans la montagne et les rochers qui se fendent du passé. Tu n'es pas dans le tremblement de terre et le feu de l'avenir lointain. Mais tu es dans le souffle doux, dans ta voix douce qui m'appelle aujourd'hui et qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Et voici, je veux t'apprendre à trouver le repos. Je vais demander à toute l'Assemblée de se lever maintenant et de rejoindre tous ceux par centaines qui sont debout. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut transformer ce lieu en chambre de prière pendant quelques instants? Si vous êtes avec nous, ce matin, pour les premières fois, Dieu est là. Dieu est à l'écoute. Vous pouvez parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des prières. Vous n'avez pas besoin de répéter des prières. Vous pouvez prier dans votre cœur, dans vos pensées. Vous pouvez parler à Dieu comme à un ami. Et à chacun d'entre nous, pendant quelques instants, nous voici à tes pieds, Seigneur. Me voici.
me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds, me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds mon roi, voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
Vois nos désirs, Seigneur, devant toi. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir.
Je te donne tous mes rêves. Me voici.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.